Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter, la différence.
Il est en studio pour là-bas si j'y suis, mais avant Daniel Mermet, le répondeur.
Bonjour, il y a 50 ans, 9 morts au métro Charonne, tous communistes. Tous révoltés par cette guerre d'Algérie. À Villejuif, nous avons un gymnase et une rue Daniel Ferry. Quand je passe devant cette rue, je pense à ce jeune adolescent qui aurait le même âge que moi. Ça fait 50 ans que je lui survis. Il avait à peine 16 ans, déjà militant. Marie-Paul, au revoir.
Bonsoir, c'est le Titi. C'était juste pour dire comme ça, demain nous sommes le 8 février. Ça fera 50 ans pour Sharon. Il a raison, le géant, il a raison. Toutes les civilisations ne sont pas égales. Il a raison. Par contre, je suis pas sûr qu'on soit du bon côté. Hein. Allez, ciao, bise.
Je suis dans une rage quand j'ai entendu la phrase de géant. Ça témoigne d'une ignorance absolument crasse de l'histoire du monde. Est-ce qu'il se rappelle de l'Inquisition ? Est-ce qu'il se rappelle nous-mêmes de nos guerres coloniales? Est-ce qu'il se rappelle de la torture en Algérie? Est-ce qu'il se rappelle que la plus grande civilisation occidentale, l'Amérique, a lancé des bombes atomiques sur un peuple, sur des civils? La seule nation qui a lancé des bombes atomiques. C'est ça la civilisation occidentale merveilleuse? Il n'y a pas si longtemps, on étripait les condamnés, on torturait les condamnés. Non mais attendez, toutes les civilisations ont eu leur heure de gloire et leur heure de merde, de turpitude. Et au nom de quoi est-ce qu'on serait meilleur que les autres? Non, franchement, il ne faut pas laisser passer ça. Et vous-même, vous êtes salarié d'un gouvernement qui permet qu'un ministre s'exprime comme ça, mais vous devriez présenter votre démission.
Bonjour à toute l'équipe et bravo pour votre émission. Je voudrais dire que moi, je suis tout à fait d'accord avec M. Guéron. On est évidemment une civilisation largement supérieure aux autres. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que nous avons créé la bombe atomique, les camps de concentration, la colonisation, les bûchers, les procès pour sorcellerie, et j'en passe, et des meilleurs. Alors bravo, Monsieur Guéant, pour enfin nous éclairer sur la grandeur de notre civilisation.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Que déférer à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier. Et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins chance de tromper. Ça, c'est le début du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Ça date de 1955. C'est un texte puissant, une analyse brillante qui démontre le lien entre esclavagisme, colonialisme et fascisme. Ce qu'a eu tout à fait raison de rappeler Letchimy hier. Il a renvoyé tous ces imbéciles dans leur casbane.
Oui, moi ce qui m'a frappé dans l'émission, c'est que au moment de la reconduction ou pas de l'autorisation des bergers à faire paître leurs troupeaux dans la base, dans la salle où ils étaient, je crois que c'était Pascal Pascariello, a dit que les officiels militaires et tout ça, tous bardés de médailles, etc., étaient assis à la table, tandis que les bergers, ils étaient debout, quoi. Ça prouve quand même un fil conducteur fondamental, quoi. Toutes ces autorités, qu'elles soient militaires ou politiques, considèrent d'une certaine façon qu'il y a des inférieurs et des supérieurs. Un peu comme certains considèrent que toutes les civilisations ne se valent pas.
Ouais, c'est Zozo le bûcheron. Oh là 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 là, formidable aujourd'hui dans la forêt. Il y a un petit rouge-gorge qui m'a accompagné. Hein. La rivière, pas loin, qui charrie les blocs de glace. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien. Le paradis. Le paradis. Le paradis. Le luxe. C'est pas Place Vendôme, le luxe. Le luxe, c'est ici. Ici. Youpi.
Merci, bravo. Le luxe, c'est pas Place Vendôme. Merci à tous pour ces messages, chers AMG. Alors, vous savez, là-bas, si j'y suis, c'est vrai qu'on est extraordinaire, toujours à l'affût de tout. On colle véritablement à l'actualité, à tout ce qui se passe à travers la planète. Mais là, aujourd'hui, on se surpasse. On va faire avancer la pendule de l'histoire d'ici à 16h. On va vous dire ce qui va se passer en mai prochain. En mai 2012, nous le savons. Eh oui. Et on va vous le prouver qu'on le sait. C'est jusqu'à 16h. Et c'est là-bas si j'y suis. Et vous allez vous en souvenir.
Bonjour Daniel, c'est Christophe de Saint-Jean-d'Angély. C'est une petite ville de 6000 habitants en Charente-Maritime. Une petite cité bien tranquille, minée par le chômage. L'équipe municipale depuis 4 ans a fermé une école et le centre social. Mais votera jeudi prochain l'installation de 5 nouvelles caméras de surveillance pour la modeste somme de 84 000 euros. Elles s'ajouteront aux 7 précédentes installées en 2010. 175 000 euros en tout. En période de crise, la prétendue sécurité n'a pas de prix. Briser le lien social d'un côté et vidéo contrôlée de l'autre. Sarko City à Saint-Jean-d'Angély, c'est la politique du gâchis.
Bonjour, le repère de Vienne, en Isère, vous invite ce jeudi 9 février à 20h au Boug, en rue des Carmes. Bruno Morand viendra nous parler de son quotidien de chômeur, de son histoire et du traitement du chômage dans notre pays, en toute subjectivité. Une personne de Pôle emploi sera également présente. Si vous aussi voulez partager votre expérience professionnelle lors d'un prochain repère ou si simplement vous voulez plus d'infos, un petit mail à ici-nous-y-sommes@gmail.com. Et comme on dit par ici, s'il fait froid à fendre pierre, venez participer au repère. Allez, c'était Jonathan à Vienne. Salut.
Édition spéciale, élection 2012.
Nicolas Sarkozy n'est pas réélu. De maire à président de la République, Nicolas Sarkozy a tout connu en politique. À Brice Hortefeux, qui lui propose de reprendre l'UMP, il aurait confié « Vous voulez que j'anime des sections UMP? Je ne mérite pas ça. Je préfère encore le Carmel. » Que faire alors? Plusieurs pistes s'offrent à lui, reprendre son activité d'avocat ou bien conseiller un grand groupe comme l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. D'après Brice Hortefeux, Martin Bouygues, l'un des intimes du président, lui aurait déjà proposé de rejoindre son entreprise.
Sollicité par la presse à l'occasion de sa cérémonie d'adieu, voilà ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy.
Monsieur le ministre, messieurs les présidents, la France finit, terminée. Et puis c'est pas la peine de reporter ça. La France est aujourd'hui, j'en suis convaincu, un tournant de son histoire. Franchement, avec des idées pareilles, absolument ridicules. J'espère que vous avez compris. La fin, eh bien, c'est aujourd'hui. Je vous remercie.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Édition spéciale avec Guy Ventil, mai 2012. Le libéralisme est foutu.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur
Philippe Lémary,
ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Madame
Suzanne Georges,
ministre des Affaires étrangères et européennes. Madame
Geneviève Azam,
ministre de l'Écologie. Madame
Clarisse Taron,
garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Monsieur
Laurent Mucchielli,
ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration. Monsieur
Jean-Marie Haribet,
ministre du Travail, de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur
Franck Lepage,
ministre de la Culture et de la Communication.
Madame et Monsieur Monique et Michel Pinson-Charlot,
ministre de la Réforme de l'État. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mercredi à 10h. Je vous remercie.
Daniel Mermet, le journal de la rédaction.
Eh bien, merci Emma. Vous le savez, la composition du nouveau gouvernement a été rendue publique il y a quelques instants lors du grand pique-nique dans les jardins de l'Élysée, ouvert, je cite, au peuple de Paris, fin de citation, tandis que sur les toits de l'Élysée, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, s'enfuyait en hélicoptère, emportant de grosses valises par où s'envolaient encore quelques billets. Il était accompagné de ses proches et de ses amis, Claude Guéant, Jean-Marie Bigard, Bernard Arnault, Bernard-Henri Lévy, Mireille Mathieu et quelques autres. Selon les dernières dépêches, l'ancien président Nicolas Sarkozy se dirigerait vers la Hongrie, le seul pays à lui accorder l'asile politique, dans un village tzigane où il sera accueilli selon la tradition. Pendant ce temps, donc, à Paris, proclamation du nouveau gouvernement, présentation des nouveaux ministres et de leurs projets, dans ce qui est nommé dorénavant le French Spring, c'est le titre du New York Times de ce jour, le printemps français. Rien ne s'est passé comme prévu, vous le savez. Au soir du 6 mai, le président sortant et son concurrent François Flamby ont été balayés par ce, je cite, « grand souffle d'air frais ». Fin de citation, c'est-à-dire le miracle, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne, avec plus de 55% des voix pour un alter-gouvernement, une première donc dans l'histoire de la Ve République. Selon le porte-parole du MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne, l'alter-gouvernement entend prouver aux Français qu'ils n'ont élu que le néolibéralisme, je cite, qui règne en maître absolu sur nos sociétés aujourd'hui, n'est pas une fatalité. Oui, une réelle alternative sociale et démocratique est possible. Fin de citation. Ils sont donc 18, vous l'avez entendu, qui constituent ce premier alter-gouvernement. Parmi eux, nous allons rencontrer certains de ces nouveaux ministres. Et nous allons commencer par Jean-Marie Haribet, ministre de l'Économie, avec notre reporter Guy Anquetil.
Voilà donc les prémices d'une fête populaire qui allait se poursuivre tard dans la nuit à Reims. Et puis, atmosphère de liesse à Chaumont comme à Reims, les électeurs étaient nombreux à attendre les résultats.
On a l'impression que c'est un petit peu un vote de mécontentement. Les gens n'étaient plus bien dans leur peau et ils voulaient un certain changement.
Je suis très contente, surtout pour les jeunes, parce que je crois que les jeunes avaient besoin de quelque chose, enfin d'un changement, il fallait faire quelque chose pour eux.
Eh bien, je suis absolument déçu.
Mais en fait, vous vous plierez quand même aux règles de la démocratie.
Ben, naturellement, on est obligé.
Quelle est votre réaction?
Aucune, ça laisse indifférent pour l'instant.
Ah, c'est bien, c'est bien.
Et vous, madame?
Oh, mais c'est très bien.
Vous êtes satisfaite?
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce qui vous satisfait le plus? Le changement?
Changement, on verra, hein.
Jean-Marie Haribet, monsieur le ministre, merci de nous accorder un petit moment alors que vous arrivez tout juste de Bordeaux.
Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Et oui, je vous retrouve en gare de Paris-Montparnasse, où doit bientôt arriver le train en provenance de Bordeaux, à bord duquel se trouve le nouveau ministre de l'Économie, du Travail et des Finances, monsieur Jean-Marie Haribet, qui doit à cette occasion prononcer quelques mots, et c'est pour ça qu'on se bouscule, puisque la foule de journalistes est venue assister à son arrivée à Paris. Il va immédiatement monter à bord d'un véhicule de fonction qui l'attend pour pouvoir se rendre à Bercy, au ministère des Finances, où il va pouvoir prononcer sa première allocution d'entrée en fonction. Alors une question que se posent beaucoup des observateurs, c'est la réaction des marchés à la nomination de celui qui, au cours de la campagne, avait prôné une définanciarisation et une démondialisation. Beaucoup de mots compliqués qui, je ne vous cache pas, ont inquiété les positions du CAC 40 ce matin. Alors, peut-être que ces premières déclarations, que j'espère pouvoir obtenir en exclusivité pour là-bas si j'y suis, ces quelques précisions, disais-je, sauront éclaircir et rassurer les marchés. Mais je vois le train qui s'approche. Les journalistes commencent à se bousculer. Et voilà, le train s'arrête. Je vais essayer de m'approcher du wagon où se trouve Monsieur Jean-Marie Haribet, ministre du Travail, des Finances et de l'Économie. Ah, je le vois qui se présente. Je me faufile. Excusez-moi, pardon. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre pour là-bas si j'y suis. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonjour. C'est pour là-bas si j'y suis. Vous avez un petit moment à nous consacrer ?
Bien sûr. À l'aube d'un changement radical de la société, il faut bien prendre un peu de temps.
Bon, c'est gentil. Je vous remercie surtout pour maintenant que là-bas si j'y suis est un programme obligatoire chaque jour.
Avec un contrôle des citoyens, je suppose.
Daniel Mermet, le journal de la rédaction.
Jean-Marie Haribet, monsieur le ministre, merci de nous accorder un petit moment alors que vous arrivez tout juste de Bordeaux où vous venez de faire vos adieux à l'université Bordeaux 4 où vous étiez professeur d'économie. Vous allez tout de suite aller vers Bercy, au ministère, pour rentrer en fonction et donner vos premiers mots. À cette occasion, une première question que se posent tous les éditorialistes et tous les spécialistes à l'orée de votre nomination. Comment pensez-vous pouvoir rétablir la confiance des marchés ?
Rassurer les marchés financiers, il n'en est pas du tout question. Et tout le programme de notre nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place va consister à défaire ce qui a été fait pour satisfaire les marchés financiers jusqu'ici. Et cela dans tous les domaines. Parce que les dégâts occasionnés par la crise ont pris une telle ampleur. Et la dégradation tous azimuts qui résulte de la mise en œuvre des politiques néolibérales pendant les quatre dernières décennies sont devenus un enjeu maintenant colossal et il s'agit véritablement de déconstruire ce qui a été fait patiemment, méthodiquement, systématiquement depuis maintenant trop longtemps. Et le premier point que mon gouvernement engagera et qui sera proposé au débat citoyen est de s'attaquer au point le plus important qui a symboliser les politiques néolibérales d'autrefois qui étaient fondées sur l'idée qu'il fallait défaire tout ce qui entourait les protections attachées au travail, attachées à la condition salariale et qui avait considérablement amélioré la condition d'une très grande majorité de la population au cours du siècle dernier. Et donc la première tâche de ce gouvernement sera d'abroger, littéralement, d'abroger toutes les lois qui ont été mises en œuvre au cours de la dernière décennie et particulièrement sous l'autorité de M. Sarkozy. Abroger la fameuse loi TEPA, qui était censée garantir le pouvoir d'achat et l'emploi, et qui a été, au contraire, un instrument de déconstruction de toutes les protections sociales. Abroger également les différentes lois portant réforme des retraites, qui ont été menées depuis plus de 10 ans maintenant, et abroger tous les dispositifs qui ont consisté à mettre en musique les 44 propositions qu'avait présentées le MEDEF au cours des dernières années et qui ont été le vivier dans lequel avaient puisé les gouvernements précédents. Donc, premier chantier.
L'abrogation des lois dites MEDEF.
L'abrogation des lois dites MEDEF et qu'on peut enlever le dites MEDEF parce que c'était des lois spécifiquement imaginées et proposées par le patronat français.
Je vois des dépêches qui disent aussi dernièrement qu'à ce sujet, Laurence Parisot et les cadres du MEDEF sont en train de former un gouvernement en exil dans un paradis fiscal dont on tait encore le nom pour l'instant.
Alors justement, la question des paradis fiscaux fera partie de l'un des chantiers dont je vais présenter l'ouverture dans un instant. Mais les forces qui sont derrière Mme Parisot n'auront plus droit d'impulser un mode de développement dévastateur et de frayer la voie à l'enrichissement de ceux qui sont déjà les plus riches. L'universalité des droits que nous voulons rendre concrète, que nous voulons rendre effective, sera au contraire un renforcement des principes constitutionnels de l'égalité des citoyens et non pas de l'exclusion de certains d'entre eux.
La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, est notre invitée.
Chers amis entrepreneurs, chers amis amoureux de l'entreprise et de l'esprit d'entreprise, si aujourd'hui le MEDEF, pour la première fois de son histoire, organise sa convention annuelle, ici, hors des frontières de France, ce n'est pas par caprice.
Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un 11 septembre de la finance. Regardons la réalité en face. Il n'y a pas un pays au monde où les taxes pénalisent autant les entreprises qu'en France. Ça, c'est être anarchiste. Et donc, dans une situation de ce type, il n'y a qu'une chose à avoir à l'esprit. Il faut être pro-business, il faut être pro-entreprise. Mais il y a urgence. C'est urgent d'agir vite.
Daniel Mermet, le journal de la rédaction.
Appel vibrant de Laurence Parisot sur l'antenne de la radio anarchiste France Inter. À la gare de Paris-Montparnasse, nous retrouvons Guy Ventil avec le nouveau ministre de l'alter-gouvernement, Jean-Marie Haribet, ministre de l'économie, du travail et des finances.
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Donc premier chantier, remettre à plat tout ce qui entoure la condition du travail et donc réinstaurer une égalité des revenus par les deux bouts, c'est-à-dire que la fixation d'un salaire minimum décent. Nous proposons que ce soit un salaire à hauteur de 1500 euros net à l'issue de la mandature qui va s'ouvrir. Et l'autre bout, la fixation d'un revenu maximum qui ne dépasserait pas l'écart de 1 à 10 entre les plus bas salaires et les plus hauts revenus. Alors les entreprises seraient obligées de se limiter à un versement de revenus respectant cette hiérarchie. Donc premier chantier, tout ce qui entoure le revenu et le travail. Et puis, la réhabilitation de la réduction du temps de travail qui a été systématiquement délégitimée au cours de la mandature précédente et qu'il faut au contraire concevoir comme une manière de répartir également les fruits de la richesse collective sur l'ensemble des citoyens et qui est aussi un moyen d'imaginer une autre manière de concevoir le progrès qui ne peut toujours être incarné par l'augmentation de la production et de la consommation marchande, mais qui, au contraire, doit pouvoir intégrer d'autres valeurs au pluriel, au sens philosophique du terme et au sens éthique du terme, au sens politique du terme, d'autres valeurs que l'enrichissement et l'accumulation. Donc, premier chantier. Deuxième chantier, sur quelque chose qui est extrêmement important également, sur la fiscalité, donc le maître mot, c'est la progressivité, à partir de l'idée qu'il faudrait pouvoir introduire dans la Constitution française ce que nous appelons un principe de juste répartition de la richesse produite. Et donc,
Vous voulez organiser un référendum ?
Nous soumettrons à référendum, effectivement, l'idée d'inscrire dans la Constitution le principe de juste répartition de la richesse produite de façon à éviter que se reproduise à l'avenir le détournement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, le détournement de la valeur ajoutée, comme les économistes aiment à le dire, le détournement de la valeur ajoutée au profit des actionnaires et au détriment du travail. Ce détournement a pris des ampleurs colossales au cours des dernières décennies. Il faut empêcher que cela puisse se reproduire à l'avenir. Donc, tout ce qui concerne la fiscalité sera empreinte de l'idée de réintroduire de la progressivité, de réintroduire donc de la justice sociale dans les prélèvements obligatoires. Et c'est lié au troisième chantier que nous voulons ouvrir sur la protection sociale, parce que le financement de la protection sociale, qui a été saccagé méthodiquement pour laisser une place aux compagnies d'assurance et aux fonds de pension dans la dernière décennie, cette protection sociale doit retrouver des bases de financement solides et il n'y a pas d'autre source de financement de la protection sociale qu'une juste répartition de la richesse produite à nouveau. Et donc, le même principe que pour la répartition primaire des revenus doit être appliqué pour le financement de la protection sociale, tant pour l'un des piliers qu'est l'assurance maladie qu'est pour l'autre grand pilier de la protection sociale que sont les retraites. Les deux doivent obéir au même principe de façon à pouvoir garantir un droit à la retraite pour tous et en même temps un droit à la santé qui est aujourd'hui malmené parce que l'égalité des citoyens devant l'accès aux soins a été rompue au cours des dernières années et aurait risqué d'être encore plus rompue si le gouvernement précédent avait pu maintenir ses dispositions.
Mais Monsieur le ministre, Jean-Marie Haribet, est-ce que la France peut faire ça toute seule ? Vous parlez de suppression, par exemple, des stock options. Vous parlez d'une TVA différenciée, d'une refonte des impôts, mais aussi d'une lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Vous demandiez la fermeture de tous les paradis fiscaux. Est-ce que c'est possible à le niveau hexagonal, tout ça? Est-ce qu'on ne va pas un jour ou l'autre se heurter à l'Europe, mais aussi aux grandes organisations internationales?
Il est sûr que toute transformation véritable se heurte à des intérêts bien établis. Donc, soit des intérêts nationaux ou des intérêts étrangers ou supranationaux, de toute façon, ce sont les mêmes. Hein. Les forces qui s'opposent au changement social dans notre pays sont les mêmes que celles qui s'opposent à tout changement à l'échelle européenne. Et on voit bien que les débats que nous avons eus au cours des dernières années concernant la transformation de l'Union européenne en une véritable union démocratique à la place de l'union des marchés représentent toujours un enjeu fondamental. Et donc, il est sûr que si aucune autre transformation dans un autre pays n'intervenait dans un laps de temps assez rapproché, la France pourrait se sentir isolée. Mais nous faisons le pari suivant, c'est que la transformation de la société que nous voulons impulser pour davantage de justice sociale, pour davantage de justice écologique également, les deux étant liés, nous faisons le pari que cette transformation-là peut faire école, non pas parce que nous serions l'exemple à suivre, le phare de l'humanité, ce n'est pas du tout notre intention, mais pourrait donner des perspectives de lutte citoyenne dans les autres pays qui pourraient rejoindre celles que nous voulons promouvoir dans notre pays. Donc il y a toujours un risque à la transformation. Nous n'allons pas être suffisamment irréalistes pour le nier, mais le réalisme est aujourd'hui du côté de ceux qui veulent engager une véritable rupture avec les politiques néolibérales qui ont mené le monde, l'Europe et la France à la crise que nous traversons. Je crois que la prise de conscience de la nécessité de cette rupture est aujourd'hui suffisamment avancée pour faire ce pari, qui est un pari optimiste, certes, mais qui n'est pas irréaliste.
Mais que va devenir la place boursière de Paris? Que vont devenir les entreprises du CAC 40? Jean-Pierre Gaillard est sorti de sa retraite pour nous annoncer des cataclysmes financiers et boursiers à venir suite à ces annonces.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale en compagnie de Jean-Pierre Gaillard, figure et voix emblématique des marchés actions. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Isa.
Alors, il y a eu cette catastrophe terrible, ça va avoir des répercussions terribles.
On est à deux doigts de la catastrophe, ça va réduire la croissance mondiale. Puis alors après, il faut tout refaire.
Jean-Pierre, merci.
Jean-Pierre Gaillard a bien mérité de la retraite dont nous voulons restaurer le principe républicain très très rapidement. L'apocalypse est une idéologie qui revient effectivement périodiquement, mais la bataille que nous voulons engager a un enjeu également qui est d'ordre démocratique. Donc la restauration donc, de la démocratie qui a été amoindrie par tous les bouts par la finance internationale au cours des dernières années, cette restauration de la démocratie est susceptible, de notre point de vue, d'écarter cet épouvantail de l'apocalypse qui n'a que pour fondement réel, pour objectif réel, que d'empêcher les citoyens, les populations d'être maîtresses de leur avenir. Et donc là, je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire si certains veulent agiter l'épouvantail de l'apocalypse. Et je reviens à la première question que vous m'aviez posée. Nous ne sommes pas là pour rassurer les marchés financiers. Nous sommes là pour les inquiéter. Voilà, on va dire cela comme ça. Nous sommes là pour inquiéter les marchés financiers. Il y a un vieux révolutionnaire qui s'appelait Bebel qui disait « Quand la bourgeoisie me félicite, je me demande quelle bêtise j'ai pu commettre. » Eh bien, si ces agences de notation nous critiquent, c'est que nous serons sans doute un petit peu sur la voie du bon chemin.
Monsieur le ministre du Travail, de l'Économie et des Finances, je vois que votre service d'ordre s'anime. Je vous laisse partir. Merci beaucoup.
Mai 2012, première altergouvernement de l'histoire de la Ve République suite au succès du MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne. Donc après cet entretien que nous a accordé Jean-Marie Arribet, ministre de l'économie, du travail et des finances, nous allons rejoindre la ministre des Affaires étrangères, Suzanne George. Mais auparavant se pose une question bien inquiétante pour cet alter-gouvernement qui, bien évidemment, par ses décisions, ses choix, ses orientations politiques, entraîne des conséquences. Beaucoup de Français et de Français quittent le pays en jets spéciaux, en Porsche Cayenne, mais aussi à pied à travers les sentiers montagneux. Une menace pour l'image, mais aussi pour l'économie de notre pays. David Pujadas.
Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Johnny Hallyday aurait l'intention de quitter la France pour s'installer en Suisse à mi-temps pour des raisons fiscales. L'affaire tourne au débat politique. Le ministre du Budget exprime ses regrets. C'est un des symboles de la France, mais il serait donc sur le point de s'installer en Suisse. Johnny Hallyday va résider la moitié de l'année dans la très chic station de Gstaad pour des raisons fiscales. Abdel Mostefa, Emmanuel Beck.
Johnny a déjà apprécié la poudreuse de cette station l'hiver dernier. Désormais, il profitera de la fiscalité helvétique. Ce soir, chez les fans qui attendent le concert à la Cigale. Réaction amusée et compréhensive.
Pour les impôts.
Les impôts. Et il a bien raison. Il a bien raison. Si on pouvait, on ferait pareil.
Si Johnny met son pognon à l'abri, il a entièrement raison. Je ferais exactement pareil.
Madame Susan George, merci de nous recevoir au Quai d'Orsay. Dans...
Vous pouvez le prononcer à la française parce que c'est George, c'est le nom de mon mari décédé et il était un français bon teint.
Ben c'est très bien que vous commenciez ainsi puisque à l'occasion de votre nomination au ministère des Affaires étrangères, beaucoup d'éditorialistes de la presse d'opposition n'ont pas manqué de lever l'idée que, étant d'origine états-unienne, ça y est, le parti de l'étranger était à la tête de la France sur la scène internationale.
Naturellement, et je les ai lus aussi. Je ne dirais pas que ça m'ait fait rire, mais cela ne m'a pas blessée non plus, parce que pour moi, quelqu'un qui a demandé la nationalité et qui l'a obtenue, d'ailleurs après une longue enquête, est aussi français que celui dont l'héritage remonte à l'an 1000. Et je me considère comme française, je le suis de cœur, je le suis de tête et je le suis de choix. Parce que la France m'a tout donné sur le plan personnel, sur le plan politique et sur le plan professionnel. Donc, je me sens très française et vous savez, les chiens aboient et la caravane passe. C'est ce que j'essaie de faire maintenant que je suis au Quai d'Orsay. J'espère que la caravane va passer.
Alors justement, nous voici dans les grands bureaux du Quai d'Orsay, face à la Seine. Mais Susan George, il y a quand même des déclarations que vous avez faites qui ont inquiété les milieux diplomatiques. Vous avez déclaré ainsi dans votre profession de foi que la France était par trop inféodée au projet belliqueux des États-Unis et de l'OTAN.
Oui, et...
Seriez-vous devenue anti-américaine ?
Pas du tout anti-américaine. Je suis réaliste sur les États-Unis, je le crois. Et je pense que leurs projets belliqueux ont été catastrophiques. Et comme ces guerres ont été non seulement coûteuses, mais désastreuses sur le plan des droits de l'homme et sur le plan géopolitique, ça nous a fait beaucoup plus d'ennemis qu'autre chose. Ça nous a donné moins de sécurité que nous n'avions avant. Je pense que nous avons tout intérêt à nous extraire le plus rapidement de ces guerres et de leurs séquelles.
Mais ne risque-t-on pas des mesures d'hostilité de la part des États-Unis suite à ce refroidissement de nos liens avec eux ?
Ce n'est pas un refroidissement. Je pense que nous pouvons dire, voilà, notre participation à des actions internationales sera à la carte, mais surtout sera jugée en fonction des intérêts de la France et des intérêts de personne d'autre, ce qui me chagrine. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le général de Gaulle avait très, très bien vu, c'est que la France a été trop souvent instrumentalisée par d'autres et lui opposait un refus farouche à ce genre de choses. Et c'est sous Nicolas Sarkozy que nous avons été amenés à rejoindre l'OTAN. Je pense que rejoindre une organisation comme cela, où on sait qu'aucun Français ne sera jamais le commandant en chef et que d'ailleurs le commandant en chef est le président des États-Unis, de par sa fonction et la constitution américaine, nous ne pouvons pas accepter ce genre de tutelle. C'est tout simple. Aucun pays qui a le désir de l'indépendance ne peut accepter ce genre de tutelle. Et quand on me demande si vous ne pouviez choisir qu'une seule mesure dans votre programme, que serait-elle? Et je dis, ça serait l'indépendance et la liberté de jugement de la France en fonction de ses intérêts et non pas des intérêts de quiconque.
Les inquiétudes françaises maintenant, ce sont les entreprises qui s'alarment des conséquences du différend diplomatique entre Paris et Washington. Le MEDEF lui-même fait part de ses craintes quant à d'éventuelles représailles à New York. Reportage.
Californie, Australie.
Il le fait à contre-cœur, mais il n'a pas le choix. Ce sont des vins étrangers que Guillaume Touton présente désormais en priorité à ses acheteurs, car le vin français qu'il vend depuis 20 ans n'a plus la cote. Du coup, son chiffre d'affaires a chuté de 10%. Il fait tout désormais pour ne pas apparaître comme une enseigne française, quitte à proclamer sur ses étiquettes qu'il verse sur chaque caisse de vin $1 à l'armée américaine. Mais le mal est fait.
Cela va prendre des années pour que les Français reprennent la place qu'ils avaient avant.
L'appel au boycott lancé par certains n'a eu qu'un succès relatif, certes. Mais tout de même, plus de 60% des Américains ont aujourd'hui une opinion défavorable des produits ou des entreprises françaises. Quel impact la détérioration de cette image aura-t-elle sur le commerce lui-même? Il faudra sans doute attendre plusieurs mois pour le savoir.
Suzanne George, un autre volet de votre action à la tête de ce nouveau ministère des Affaires étrangères, c'est les relations avec nos voisins méditerranéens. Le précédent gouvernement, et le précédent président en particulier, avait tenté d'établir un arc méditerranéen. Simplement, le problème, c'était que c'était avec les présidents déchus de Libye, de Tunisie et d'Égypte, principalement. La France a perdu des points avec ses voisins méditerranéens en ayant raté le début du printemps arabe.
Je me souviens de ma joie il y a un an quand les Tunisiens ont chassé Ben Ali, mais c'était aussi une grande humiliation de voir qu'auparavant, jusqu'au ministre, que ce n'est pas la peine de nommer maintenant, elle a rejoint les limbes d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Mais,
à ce propos, rassurez-nous, il n'y a pas de camp de rééducation et de séance d'autocritique pour les membres de l'ancienne majorité.
Non, il n'y aura pas de camp de rééducation. Nous sommes en démocratie et en République, rassurez-vous. Bien.
Revenons au monde arabe.
Revenons
au monde méditerranéen.
Au monde méditerranéen, où nous avons non seulement perdu des points, mais perdu la face. Nous avons perdu notre aura et notre façon d'accepter n'importe quoi de gangster au pouvoir. Je sais qu'en politique étrangère, il faut être réaliste, mais il y a des limites. Et cela, nous n'allons pas, pour des raisons de nos propres intérêts, nous n'allons pas tolérer cela. Nous nous complémentons. Nous avons, je crois, les mêmes intérêts et nous n'allons pas laisser des questions religieuses entrer là-dedans. Nous allons traiter politiquement avec les dirigeants et nous allons aider au développement de la démocratie de ce côté-là de la Méditerranée. Et je pense que ça passe par des relations culturelles renforcées, par des relations d'aide au développement, des traités sur l'eau, des traités sur l'énergie qui sont mutuellement bénéfiques. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà un chantier privilégié.
Un autre chantier privilégié, je crois, à Suzanne George, c'est l'Afrique subsaharienne qui passe en particulier par le renoncement et toute une partie de la dette de la France.
Oui, la France va annuler, et je suis déjà en relation avec Bercy pour cela, nous allons abolir ces farces du Club de Paris qui agit comme un tribunal, qui a les pauvres Africains du ministère du pays X qui viennent essayer de quémander un petit peu d'annulation par-ci, par-là. Et c'est honteux et nous n'allons pas continuer à pratiquer ce genre de choses. Et nous allons annuler la dette de l'Afrique subsaharienne qui était une forme avancée et remodelée du colonialisme, ce qui est intolérable. Et puis là, il y a encore un cas de coopération avec d'autres ministères. Si on pouvait savoir réellement la valeur qui est extraite de ces pays par des entreprises transnationales, l'aspiration comme un aspirateur, n'est-ce pas, de valeur, d'argent, de... C'est catastrophique. Ces pays sont vidés de leur substance très souvent et on va essayer de mettre fin à ce genre de choses. Et ça passe aussi par la lutte contre les paradis fiscaux dans lesquels nous ne sommes pas évidemment seuls, mais il faudrait faire ce que l'on peut dans ce domaine-là de manière à ce que les élites africaines n'arrivent pas à spolier leur peuple.
Premier alter gouvernement de l'histoire, victoire du miracle, mouvement indépendant pour une réelle alternative citoyenne. Nous sommes en mai 2012. Nous allons retrouver dans un instant Guy Van Til et Suzanne George, première ministre des Affaires étrangères de ce nouveau gouvernement. Mais auparavant, des échos de la bourse, inquiétude palpable chez ces gros pleins de soupe de rentiers.
Paris 7, 4,03%. Le CAC descend à 2855 points, soit le niveau le plus bas. Les titres de BNP Paribas, de la Société Générale et du Crédit Agricole lâchent plus de 10% aujourd'hui. Alors, difficile de ne pas penser dans ce contexte à son argent. Et les Français s'interrogent chaque jour un peu plus sur l'avenir de leur compte en banque. Et vous, qu'en pensez-vous? Estimez-vous que votre argent est en sécurité? Nous vous avons posé la question. Eh bien, la réponse est oui à seulement 29%, à 66% de non. Vous pouvez donc continuer à voter sur notre site. Résultat définitif demain dans le 12-45.
Madame la ministre, j'ai gardé le plus délicat pour la fin. Oui. Dans votre bureau.
Je vous vois venir.
Dans votre bureau des affaires étrangères, oui. C'était une déclaration que vous avez faite hier concernant la reconnaissance de la Palestine. Oui. Voilà. La France ne risque-t-elle pas de brouiller ou en tout cas de perdre un de ses alliés stratégiques, à savoir Israël, qui est la seule démocratie dans la région?
Nous avons déjà entamé des discussions avec Israël. Nous essayons de rassurer Israël sur toute la ligne, mais ceci n'exclut en aucune manière notre reconnaissance de la Palestine qui n'a que trop tardé. Et on a parlé jusqu'ici de mesures qui sont peut-être nécessaires, mais beaucoup moins spectaculaire. Et je me suis dit, mais pourquoi cet excellent journaliste ne me pose pas cette question-là en premier? Mais je vois pourquoi maintenant. Et cette reconnaissance n'a que trop tardé. Il s'agit d'un peuple, ils l'ont prouvé depuis 1948, ils l'ont prouvé par la souffrance, ils l'ont prouvé par leur incroyable capacité à durer et à résister, et tout cela mérite humainement, mais aussi politiquement, d'être reconnu. Et c'est comme cela que nous pouvons avancer. Alors, le pendant de cette décision-là, c'est que nous nous proposons, et les Israéliens et les Palestiniens le savent et vont en parler, la France veut bien être une plateforme permanente pour des négociations entre ces deux pays, pour rassurer les uns et les autres et pour aller vers une solution non violente de ce conflit. Alors, si la France peut être un peacemaker, un faiseur de paix, il y a quelquefois des mots qui manquent, hein. Vous trouverez certainement.
Oui, parce que sinon, c'est pacificateur, mais c'est connoté.
Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce qu'on donne à un enfant pour qu'il pleure pas aussi, un pacificateur. Et puis, nous allons, j'espère, accroître petit à petit notre réputation pour ce genre de choses. Parce que la France, rappelez-vous, c'est moins de 1% de la population du monde. Hein. Nous ne sommes pas sur le plan du nombre, un pays très important.
Oui, mais la grandeur de la France, Madame la Ministre.
Mais j'allais venir, et ça n'est pas, vous dites ça avec un peu d'ironie, mais ça n'est pas un mot que j'utilise avec ironie. La grandeur de la France a été, depuis de longs siècles, à la fois sa conquête de la liberté, de la fraternité et de l'égalité, qui ont fait de la France un pays vers lequel d'autres regardent. Et je crois que quand nous reconnaissons la Palestine, ça peut donner du courage aux autres. Quand nous faisons quelque chose, je crois que ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est pour le monde. J'espère que ça n'est pas trop prétentieux de dire cela, mais je crois que la France a quelque chose à apporter au monde de par ses traditions, de par ses conquêtes, de par ses aspirations. Et nous voulons mettre tout cela au service des autres, mais tout d'abord, évidemment, au service des Français eux-mêmes.
Madame la ministre, je vous remercie.
6 mai 2012, victoire du MIRAC, mouvement indépendant pour une réelle alternative. Les réactions, liesse populaire partout en France et notamment dans les rues de Troyes où nous nous rendons avec notre reporter.
Dernier rendez-vous de ce journal avant l'édition spéciale consacrée aux réactions de ces élections présidentielles. Dernier rendez-vous donc à Chaux dans les Ardennes, Chaux qui a voté à 63%. Et puis ici dans les rues de Troyes, dès 20h et un peu plus tard, des manifestations dans les rues. Slogan de victoire, concert d'avertisseurs, drapeau rouge et international, une ambiance de 14 juillet avec 2 mois d'avance.
Après le calme de la journée, c'était la fête hier soir à Chaux. Et même si c'est une lapalissade, on peut dire que le village ardennais portait bien son nom. Jeunes et vieux, tout le monde a dansé et chanté des chansons antinucléaires, c'est évident.
Bien sûr, ça donne de l'espoir, mais je pense qu'on va rester mobilisés. Mais on a, disons qu'on a une grande allégresse.
Voilà, c'était donc les réactions dès hier soir. Dans quelques instants, l'édition spéciale de ce journal. Et là, nous aurons les réactions des hommes politiques. Bonsoir.
Réaction des hommes politiques et des femmes politiques également, après Suzanne Georges. Voici le ministre, la ministre de l'écologie, Geneviève Azam.
Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Geneviève Azam, Madame la Ministre, bonjour. Vous nous accordez cette interview à l'occasion de cette grande réunion programmatique qui est lancée par le nouveau gouvernement, l'alter-gouvernement, au sujet des grandes orientations qui vont être prises. Vous-même, pour commencer, vous venez de quitter vos fonctions au Conseil scientifique d'attaque. Et première question idiote, excusez-moi, quand j'ai cherché dans l'organigramme, j'ai cherché le ministère de l'Environnement. Or, je vous trouve à celui de l'écologie. Que veut dire cette différence sémantique ?
Ce n'est pas seulement une différence sémantique, c'est vraiment une différence politique. Il ne s'agit pas simplement de soigner un petit peu notre environnement, il s'agit de véritablement modifier nos modèles, notre mode de production, notre mode de consommation. Ça touche donc à la fois les conditions de travail, les conditions dans lesquelles nous produisons, ce que nous produisons, donc une véritable écologie politique et sociale. Il ne s'agit pas simplement de revoir comment nous pourrions continuer le modèle tout en soignant l'environnement, il s'agit de modifier en profondeur, d'engager une véritable transition écologique et sociale. Pendant trop longtemps, on a séparé les questions écologiques et les questions sociales. On a considéré justement que les questions environnementales étaient des questions finalement de luxe qui ne concernaient que des gens qui étaient déjà bien nourris, qui étaient déjà bien insérés socialement, qui pouvaient se poser ces questions d'environnement. Or, précisément, cette notion d'écologie humaine, d'écologie sociale, touche tous les aspects de la vie, y compris donc la vie au travail, là où on habite, comment on vit, comment on consomme, mais aussi notre rapport à la terre, que nous avons considéré toujours comme étant un rapport d'appropriation, de domination.
D'exploitation des ressources.
D'exploitation effrénée des ressources. Et ce que le terme écologie veut signifier aussi, c'est que ce sont les sociétés organisées qui doivent collectivement se poser la question de quel rapport nous établissons maintenant avec la nature, comment nous pouvons travailler avec et non pas contre. Mais ce ne sont pas des lois de la nature qui s'imposent à nous. C'est nous, sociétés, nous, peuples, qui devons définir collectivement comment nous nous situons maintenant avec l'épuisement des ressources, etc. Comment nous allons traiter nos relations avec la nature. En ce sens, la question écologique est une question à la fois sociale, politique, humaine, éthique aussi. Voilà pourquoi c'est indissociablement lié.
Madame la ministre, à ceux qui disent, nous comprenons les nouvelles orientations du gouvernement qui émanent apparemment d'une volonté des citoyens et des électeurs, puisque c'était le résultat des urnes, mais concrètement, comment vous faites pour pouvoir faire coïncider écologie et société ?
De la même façon que nous demandons qu'il y ait un audit de la dette, je pense que nous devons absolument faire un audit des consommations énergétiques pour savoir véritablement là où nous devons faire porter nos efforts prioritaires pour diminuer la consommation énergétique, diminuer en particulier la consommation d'électricité. Et là, ça suppose une mobilisation populaire. Ça ne peut pas être des mesures technocratiques qui sont prises par quelques experts qui nous diraient que désormais la norme est celle-ci ou celle-ci. Les normes sont des normes politiques, des normes sociales, des normes démocratiques. Donc nous allons mettre en place dans tous les niveaux de la société, du niveau local au niveau national, des réunions sous la forme d'une démocratie participative pour dégager les points qui requièrent des mesures immédiates. Nous savons que pour sortir du nucléaire, nous avons besoin de diminuer, c'est la première mesure, diminuer la consommation d'énergie. Nous pouvons très bien faire, mais suite à un débat, non pas face à l'urgence, comme ça s'est fait par exemple au Japon, après Fukushima, nous savons qu'à Tokyo, aujourd'hui, dans l'agglomération de Tokyo, la consommation d'électricité a diminué de 30%. Ce n'est pas la révolution, la société japonaise continue à tourner, Tokyo n'est pas éclairée à la bougie, les choses sont tout à fait vivables et la production continue à se réaliser. Donc, immédiatement prendre des mesures pour diminuer la consommation électrique. Ça peut être l'éclairage urbain. On nous a dit souvent qu'au niveau de l'éclairage urbain, c'était nécessaire pour
par rapport
à la question de sécurité. Les villes qui ont déjà aujourd'hui baissé l'éclairage urbain montrent qu'au contraire, l'insécurité n'a absolument pas augmenté. Mais ensuite, c'est aussi inciter au niveau des collectivités territoriales à des plans véritablement massifs d'économie d'énergie individuelle. C'est-à-dire lancer un programme d'efficacité énergétique dans tous les bâtiments publics, dans tout le parc social des HLM, là, véritablement dégager des fonds publics prioritairement pour faire baisser la facture énergétique de la population la plus pauvre et la plus précaire, hein, de lutter contre la précarité énergétique. Ça, ce sont des mesures immédiates qui doivent être prises. Et je voudrais dire que je pense que nous devons prendre des mesures symboliques pour enclencher un espoir dans la population qui se mobilise pour se réapproprier l'énergie. Parce que cette énergie a été volée finalement par quelques transnationales qui aujourd'hui nous fournissent, comme elles ont volé des semences aussi. Mais ça, je pense que mon collègue d'agriculture en parlera. Mais nous devons nous réapproprier l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Et je pense que ça peut être un levier très important de mobilisation démocratique.
Olivier Vazin, vous faites partie avec Paul Ariès et Jacques Testard de l'aile décroissante du nouveau alter-gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir se serrer la ceinture? Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir dire aux Français « Ben non, maintenant il y a des nouvelles lois, il va falloir suivre un nouveau cahier des charges, il va falloir faire moins » Est-ce que ça veut dire qu'il faut rabaisser ses ambitions ou rabaisser ses désirs?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes ici au collectif d'audit de la dette publique. Ce ne sont pas des écologistes qui aujourd'hui prônent de serrer la ceinture. La ceinture, nous la serrons de toute façon, nous la serrons de manière extrêmement inégalitaire. Certains se serrent la ceinture beaucoup plus que d'autres. Et donc c'est justement ce renversement que nous faisons. C'est pour ne plus se serrer la ceinture au sens où les politiques néolibérales nous imposent de serrer la ceinture que nous voulons envisager la transition écologique et sociale. Parce que si nous continuons ce modèle-là, ce modèle de prédation à la fois du travail humain et des ressources naturelles, ce modèle-là est un modèle dans lequel nous nous serrons la ceinture. Donc la sobriété dont nous parlons, la sobriété n'a rien à voir avec se serrer la ceinture, c'est être capable de choisir collectivement, et là il faut une insurrection démocratique, il faut faire un audit peut-être aussi de nos besoins. Qu'est-ce qui, dans ces besoins qui nous sont largement imposés, qu'est-ce qui réellement accroît notre bien-être et qu'est-ce qui, au contraire, nous oblige à consommer sans pour autant accroître notre bien-être? Donc c'est l'idée que le plus n'est pas le mieux et qu'avec moins, on peut gagner considérablement en bien-être. Donc il ne s'agit pas de se serrer la ceinture. En revanche, il s'agit peut-être de faire serrer la ceinture à tous ceux qui aujourd'hui sont les grands prédateurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous savons aussi, c'est là que les questions sociales et environnementales sont totalement liées, que c'est un mode de vie, un certain mode de production et mode de vie qui engendre des dépenses absolument énormes, en particulier énergétiques. Et donc, à ceux qui sont les plus gros consommateurs d'énergie, de biens, etc., oui, il va falloir qu'ils serrent la ceinture. Ça s'appelle la redistribution, ça s'appelle la justice sociale.
Et c'est ce que vous allez dire à la prochaine réunion que vous avez avec le collectif qui s'est formé de revendeurs de véhicules 4x4 en ville qui protestent contre les nouvelles mesures du gouvernement?
Oui, absolument. Nous allons les rencontrer. Évidemment que nous pouvons comprendre qu'ils n'apprécient pas les mesures qui vont taxer considérablement leur propre consommation, mais nous allons leur expliquer que c'est le minimum de justice sociale.
Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre.
Merci à vous.
De retour dans nos studios parisiens avec Daniel Mermet.
Merci à toutes et à tous. C'était le premier volet d'une petite série de reportages dans ce nouveau gouvernement, cet alter-gouvernement. En fait, ces 18 nouveaux ministres s'expriment dans un petit livre qui est sorti il y a quelques semaines déjà et que nous vous conseillons chaleureusement et qui s'intitule « Alter-gouvernement chaleureusement » parce que c'est un tout petit éditeur qui a publié ça, qui s'appelle Le Muscadier et ils sont 18 donc ministres citoyens pour une réelle alternative à s'exprimer et à exprimer leur projet dans ce bouquin tout à fait formidable. Notre reporter, grand reporter, vous l'avez reconnu, c'est Guy Van Til, qui est allé rencontrer les grandes figures de ce que la presse internationale appelle déjà le French Spring. Merci donc à Jean-Marie Haribet, Suzanne Georges et Geneviève Azam. Alors, un conseil des ministres de l'alter-gouvernement exceptionnel aura lieu en public vendredi prochain, 17 février à 19h. Au DAL, c'est-à-dire au droit au logement, 29 avenue Le Drurelin à Paris, métro quai de la Râpée ou gare de Lyon. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, ce qu'on espère bien sûr, ou sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. Cédric Lalanne et Ronan Mahé étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Alors ?
Bah alors, je vois une maison.
Non, c'est ma maison basse consommation, équipée au gaz naturel que tu vois. La maison du futur.
Et t'es pas trop en avance sur ton temps ?
Ah bah c'est mon choix. Réduire ma consommation jusqu'à 75% avant tout le monde grâce à ma maison BBC. Et pour le confort, j'ai choisi le top.
Une bouillotte intersidérale.
Non, le gaz naturel, ça t'intersidère, hein ?
Pour en savoir plus, appelez le 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
À demain donc, 15h, là-bas si j'y suis avec l'alter-gouvernement et d'autres ministres de ce gouvernement. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Élie Bop, placé en garde à vue aujourd'hui, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux est interrogé dans le cadre d'une enquête sur des indemnités de chômage qu'il aurait perçues alors qu'il travaillait comme consultant sur Canal+. À Homs, en Syrie, l'explosion d'une voiture PSG a fait plusieurs victimes cet après-midi. On ne connaît pas leur nombre exact. Pour le pouvoir en place, c'est l'œuvre d'un groupe terroriste. Les autorités syriennes les accusent d'être à l'origine des violences depuis près d'un an dans le pays. Revenant sur la visite du chef de la diplomatie russe hier en Syrie, le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé dit aujourd'hui ne pas croire aux promesses de Damas de mettre un terme à la violence d'où qu'elle vienne, comme l'a dit Bachar el-Assad. Le Premier ministre britannique David Cameron affirme lui avoir une confiance très limitée sur les résultats de la visite de Sergueï Lavrov. Les mesures présentées en Conseil des ministres ce matin pour lutter contre le chômage et plus globalement contre la crise seront débattues lundi prochain à l'Assemblée nationale. Pêle-mêle, on retrouve la TVA sociale et l'instauration de la taxe sur les transactions financières. Pour ce qui est de la TVA, elle passera ainsi de 19,6% à 21,2%. Objectif, renforcer la compétitivité de l'industrie française et dans le même temps, alléger les cotisations sociales pour faire baisser le coût du travail. Le déficit des finances publiques, la décentralisation, le régime des intermittents du spectacle, les chantiers culturels, tout y passe. Dans son rapport annuel rendu aujourd'hui, la Cour des comptes a épinglé également les hôpitaux de Marseille qui n'ont pas réussi à mener à bien l'informatisation du dossier patient, Laurent Goria.
Ce projet, lancé en 2005, visait à intégrer dans un même système informatique les données médicales et administratives des patients. La PHM avait choisi parmi les prestataires une société américaine peu expérimentée dans le domaine hospitalier français. Résultat, une accumulation d'erreurs et de retards et au bout de 3 ans, un constat d'échec, d'où un nouvel appel d'offres lancé en juillet 2009. À l'arrivée, le coût global de l'opération, dit le rapport de la Cour des comptes, s'est élevé à 14 millions d'euros. L'établissement aurait engagé en pure perte 5,5 millions de dépenses et quasiment autant en ressources humaines et communication. C'est donc un pilotage défaillant que dénonce la juridiction. Pour éviter un nouvel échec, la Cour recommande à la PHM de faire appel à l'avenir à une expertise permettant de mieux prévoir ses besoins, en faisant notamment appel aux autorités de tutelle. Marseille, Laurent Goria, France Inter.
Les suites de l'affaire Letchimy, le bureau de l'Assemblée nationale se réunira mardi prochain pour décider donc de la suite à donner à ces propos qui ont provoqué hier le départ du gouvernement de l'hémicycle. Le député martiniquais apparenté PS a parlé de nazisme en réagissant aux propos de Claude Guéant, selon lequel les civilisations ne se valent pas. 55 départements sont toujours placés en vigilance orange au grand froid cet après-midi. Le froid persiste et signe donc en France. Et selon RTE, le record de consommation électrique d'hier pourrait être battu ce soir. Avec le froid, les maladies, la grippe continue de progresser en France. D'après les réseaux de surveillance, elle est déjà épidémique en Île-de-France, Languedoc-Roussillon et PACA. Pour ce qui est de la gastro, près de 900 000 personnes ont été touchées en 5 semaines. Parmi les régions les plus affectées, Midi-Pyrénées, Limousin et Haute-Normandie cette fois. Vous écoutez France Inter 16h03.
Allô.
Allô.
Donc,
à votre écoute.
Bonjour.
Coûte que coûte.
C'est quand même un problème de santé publique.
Bonjour Margaret.
Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu.
Retrouvez-nous dès demain à partir de 12h20.
Nous serons à votre écoute.
La raison de mon appel à moi.
Pour répondre à vos interrogations.
Bon bah c'est pas facile.
À vos attentes.
Je suis maladivement jalouse.
À vos doutes.
Pour vous c'est la solution.
À votre écoute. Coûte que coûte.
Votre nouveau rendez-vous.
De santé publique. Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter. France Inter. La différence. Et rien de tel pour la santé publique que d'écouter la musique et d'adoucir les âmes.
De la jolie musique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est le jour des enfants, mercredi, alors pourquoi ne pas se pencher sur quelques petits volumes tout à fait intéressants. Par exemple, mon imagier des instruments, avec une très jolie musique comme toujours, d'Isabella Boulker, un grand compositeur, Isabella Boulker, et puis une illustration vraiment par instrument, chaque fois il y a un beau dessin, un pastel, enfin quelque chose de très bien fait. Là c'est Xavier Fréring, c'est publié chez Gallimard Jeunesse, Éveil musical, et bien sûr, bien que ce soit dit, vous allez tous, vous qui écoutez le Carrefour de l'Odéon depuis presque 20 ans, reconnaître
la clarinette.
C'est tiré de Mon imagier des instruments, musique d'Isabelle Aboulker, qu'on salue, qu'on embrasse, parce que c'est une femme adorable et une compositrice, on dit aujourd'hui, d'ailleurs de très très beaux talents. Mais elle s'est consacrée pas mal aux enfants, c'est ça qui évidemment nous occupe un peu au début de cette émission. Alors je recommande ce Gallimard Jeunesse, ça n'est pas récent, ça date de 4 ans, mais enfin c'est toujours valable. Et puis évidemment il y a plein de propositions, mais là on peut entendre la trompette, après le piano, la flûte à bec, le cor, le hautbois, l'accordéon, etc. La contrebasse, la guitare, la harpe, et puis
bien après, il y a des jeux, c'est-à-dire que les plus grands peuvent essayer de reconnaître sans qu'on leur dise le nom de l'instrument. Alors la clarinette, tellement souple, tellement romantique, tellement vivante, qui a changé de caractère d'ailleurs à travers les âges, puisque à son invention, au moment de sa création, elle était un peu plus rude, et c'était un instrument qu'on entendait bien en plein air, et puis elle s'est assouplie, elle est devenue un instrument vraiment chantant, adoré de Mozart et de Karl Maria von Weber. On a déjà entendu un peu de ce disque hier, mais il est vraiment superbe, donc je recommence. C'est l'instrumentiste Michael Collins, clarinettiste, qui dirige en même temps l'orchestre City of London Symphonia, et voici un extrait, l'allegro final d'un concertino, un petit concerto de Karl Maria von Weber.